Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à l'info avec moi pendant 7 heures. Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Taube, bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Roy, bonsoir.
Bonsoir.
Et Marc Menant, bonsoir.
J'ai à vous. Votre passeport Kelly, marqué dessus, Kelly.
Ah, je suis autorisée pendant 2 jours.
Ah bon,
rassurez-vous.
Non, mais nous on contrôle ici.
Bien sûr,
vous avez le QR code.
Et vous avez bien raison, j'ai le QR code, j'ai toutes les attestations que j'ai remplies moi-même. Évidemment, Face à l'info commence dans un instant, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin. Bonsoir Simon.
Bonsoir chère Elodie et bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Emmanuel Macron a présidé la traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945 aujourd'hui, 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et comme le veut la tradition, le président de la République a remonté l'avenue des Champs-Élysées avant de raviver la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Près de Valenciennes, dans le nord, des croix gammées ont été découvertes sur le monument aux morts de la commune d'Escopon. Les tags ont été réalisés cette nuit, alors que le monument devait être inauguré ce matin. La mairie de la ville a décidé de porter plainte. Et puis les négociations de la dernière chance ont repris en fin de matinée au Caire en présence de toutes les parties. Dans le même temps, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes et des opérations ciblées sur la ville de Rafah. L'État hébreu a annoncé la réouverture du point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, chère Elodie.
Merci beaucoup Simon. Prochain point sur l'actualité avec vous dans une heure. Au sommaire de votre Face à l'info, on commencera avec vous Mathieu Bock-Côté. On va parler d'un certain emballement quand de simples paroles peuvent vous valoir condamnation ou bien passage devant les tribunaux. On évoquera une sorte de censure ou une autocensure. Est-ce qu'on peut critiquer le vivre ensemble? Est-ce qu'on peut citer des études statistiques sans être condamné? En théorie, bien sûr. Mais Mathieu, vous allez nous montrer avec des exemples concrets que la réalité est bien plus complexe. On va parler aussi des Jeux Olympiques, bien sûr une excellente nouvelle pour la France, mais est-ce vraiment si simple? On voit par exemple de nombreux préavis de grève fleurir dans beaucoup de secteurs, les Parisiens craignent aussi des galères de transport, on en parlera avec vous Michel Taube. Avec vous Marc, on va parler de Jeanne d'Arc. Le 8 mai 1429, les Anglais levaient le siège d'Orléans après que Jeanne d'Arc soit montée à l'assaut et libérée la ville. C'est le premier succès de celle qui sera plus tard surnommée la Pucelle d'Orléans, vous nous raconterez. Vincent, vous allez vous livrer à un exercice ô combien compliqué. Vous allez nous parler du manuel sur le langage inclusif de l'OTAN. Vous allez constater à quel point c'est complexe. Certains diront d'ailleurs impossible à mettre en place. Je compte sur vous, Vincent. Je sais que vous êtes entraîné. Vous allez nous livrer un édito 100% écriture et lecture inclusive à venir. Et puis pour terminer, on reparlera de Marseille, une ville qui représenterait la France. C'est le maire de la ville, Benoît Payan, qui le dit. Marseille, ville cosmopolite pour les uns, représentant deux France qui vivent désormais face à face pour d'autres. De quoi la cité phocéenne est-elle le nom? On vous posera la question, Mathieu Bock-Côté, tout de suite. C'est donc Face à l'info. On commence avec vous Mathieu, on va parler de la France mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne et même du Canada. On va parler donc de la censure et de l'autocensure qui l'accompagne. On va parler de ce droit contesté aux Français comme aux autres Européens de remettre en question le récit enchanté du vivre ensemble. Et on va d'abord en parler en évoquant des citoyens qui sont mis en difficulté pour avoir cité le Coran dans le texte.
Alors c'est assez particulier, j'ai l'impression racontant cela d'entrer dans quelque chose comme une comédie plus ou moins drôle. Mais le fait est que c'est la réalité de notre temps. Alors, Le Figaro nous rapportait l'histoire, ça se passe, dis-je, à Bourg-en-Bresse. Le maire socialiste, Jean-François Débat, a créé scandale. Pourquoi? Parce qu'il a cru voir un scandale. Dans sa ville, des panneaux, des affiches, qui reprenaient des extraits du Coran, évidemment dans une perspective polémique, personne ne dira le contraire, et notamment ces extraits, je cite, parce que c'est assez important de les dire dans les circonstances, donc sur la question du rapport à la paix, l'islam prône-t-il la paix? Et là, des citations qui étaient reprises. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah, ni au jour dernier. Parmi ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens ou encore, combattez-les jusqu'à ce que la religion soit à Allah seul. Bon, ainsi de suite. Donc ce sont des extraits du Coran. Mm-hmm. Des extraits on pourrait dire, décontextualisé, des extraits tiré du livre pourrait présenter probablement pas la part la plus lumineuse de ce qui est considéré par certains comme un texte sacré, mais ce sont des extraits du Coran. Le maire, voyant cela, il y a les photos se répandent sur les réseaux sociaux, les gens, plusieurs sont scandalisés, et le maire décide de porter plainte, donc Jean-François Débat décide de porter plainte pour dérives haineuses et propos, globalement propos islamophobes. Et là, il y a une réaction malaisée, comme on dirait, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, où plusieurs disent, mais un instant, nous, ces affiches citent le texte du Coran. Le Coran serait-il lui-même islamophobe? Est-ce que citer le Coran, certains extraits plutôt que d'autres, est-ce que c'est de l'islamophobie? Est-ce que le Coran laissé en lui-même, donc sans la médiation des imams, sans la médiation de ceux qui l'interprètent pour nous, est-ce que le texte brut, est-ce que le texte qui nous est présenté serait en lui-même islamophobe? C'est une question moqueuse qui est apparue sur les réseaux sociaux, mais qui est une question qui n'est pas que moqueuse. Je note toujours Salim Mazni, qui est le directeur de cabinet du maire, s'est désolé de ses affiches en disant qu'il s'agit des traductions orientées et malveillantes des textes sacrés. Donc, orientée, malveillante. On pourrait dire que toute traduction est par définition orientée. Ça, il y a un souci d'exactitude, mais vous connaissez la formule, le traducteur est un traître. Toute traduction oriente d'une manière ou de l'autre. Et malveillante. Et malveillante, ce qu'on comprend ici, c'est que reprendre certains extraits du Coran plutôt que d'autres pourrait contribuer à donner une mauvaise réputation à cette religion. Alors là, c'est à ce moment, et ça interpellera notre ami Marc, qu'on rencontre pour une fois vraiment la question de la laïcité. Parce que vous savez, la laïcité, on en parle tout le temps, en toutes circonstances, on devient presque lassant, mais là, on y est vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'il est permis, par rapport à une religion, et pas seulement l'islam, par rapport à toutes les religions, d'avoir à leur propos une critique non seulement de surface, non seulement une critique secondaire, mais une critique de leur noyau? Est-ce qu'il est permis, par exemple, non seulement de critiquer l'islamisme, mais l'islam? Est-ce qu'il est possible de critiquer non pas seulement le christianisme fondamentaliste, mais le christianisme lui-même? Est-ce qu'il est permis de critiquer non pas les excès possibles du bouddhisme, ça doit être le degré suprême de l'apaisement, donc oui, mais est-il possible de critiquer le bouddhisme lui-même? Est-il possible de critiquer l'hindouisme? Faites la liste. Bon. Est-il possible de critiquer ces religions en elles-mêmes, ou ne peut-on critiquer que leur instrumentalisation idéologique? Alors moi je comprends, moi je confesse un grand respect pour ce qu'on appelle les textes sacrés des grandes religions. Je suis de cette école. Mais je considère que vous n'êtes pas en droit de m'imposer votre définition du sacré. Moi, je respecte les grandes traditions, mais si vous êtes dans une société où chaque religion, quelle qu'elle soit, et soit dit en passant, le sacré n'est pas le monopole des religions traditionnelles. Les idéologies du 20e siècle nous ont montré que le sacré pouvait se transférer dans des idéologies politiques officiellement laïques. Mais si je suis obligé de respecter votre définition du sacré, et que je commets un blasphème si je ne la respecte pas, eh bien nous entrons dans une logique justement de délit d'opinion, et plus encore de délit de blasphème, où les plus intégristes de chaque religion auront la responsabilité d'assurer le respect de l'image qu'on en a publiquement. Mais là, il faut revenir sur le point central. Nous ne sommes pas ici devant une interprétation abusive et déformée du texte. Nous sommes devant la citation même d'extraits du Coran. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on peut dire que certains extraits du Coran sont islamophobes et d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'il est permis d'afficher certains extraits et on doit censurer les autres? Est-ce qu'on doit parler du Coran qu'à travers la médiation d'un interprète qui nous dira ce que veulent dire certaines phrases qui, laissées en première lecture, peuvent donner l'impression d'être devant un texte qui a une portée belliqueuse? Je note que le Conseil français du culte musulman s'est ajouté au débat et a vu dans tout cela des affiches islamophobes. Il faudra encore une fois leur poser la question. Donc, en quoi est-ce islamophobe de citer le texte sacré de la religion qu'ils font leur? C'est pas un détail. Et donc là, on est devant, on présente tout ça aussi, c'est important, comme un affichage sauvage et haineux. Un affichage sauvage et haineux. Haineux en quoi? Haineux parce qu'en citant le texte directement, eh bien, nous serions devant un appel à la haine. C'est très particulier, l'idée que si on a un contact direct avec les textes sacrés, on serait devant un appel à la haine. Donc, et là, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on nous dit jamais. Parce que j'ai tout fait, j'ai vraiment cherché, je ne trouve pas la raison pour laquelle les textes seraient haineux. Ça serait important de nous le dire. Voilà en quoi cette présentation. Non, on se contente de coller l'étiquette du haineux pour nous expliquer, pour susciter immédiatement chez nous le sentiment de réprobation. Si c'est haineux, c'est mal. Je note, soit dit en passant, que c'est une chose assez... Ça dépasse largement la question du Coran. Le livre Transmania, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, vous noterez qu'ils sont nombreux à mener une campagne ardente contre ce livre en disant qu'il est transphobe, transphobe, transphobe. On sait qu'il est transphobe. Mais les mêmes qui nous disent qu'il est transphobe prennent souvent la peine de nous dire qu'ils ne l'ont pas lu. Donc, ils sont même fiers de dire « Je ne l'ai pas lu. Ah, sachez à quel point je le condamne. Je ne l'ai pas lu et je sais que c'est mauvais. Je ne l'ai pas lu, ne le lisez pas aussi tellement c'est transphobe. » Donc là, on est dans un système de qualification, de disqualification de ce qui nous déplaît, où on colle une étiquette, on la répète en boucle, il devient inconvenant socialement de ne pas répéter cette étiquette. Et au final, le résultat, c'est que si vous ne répétez pas l'étiquette, vous êtes complice vous-même, soit de transphobie, dans le cadre du livre Transmania, ou d'islamophobie. Je note une autre chose qui me semble assez importante, c'est que cette manie de dénoncer des propos cités, ça touche pas seulement donc, transphobie, la question de l'islam, mais tout récemment, sur notre antenne, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous en avez souvenir, la psychologue Marie-Estelle Dupont a cité des extraits, a parlé d'un programme qui s'appelle On s'exprime, qui est un programme financé par l'État d'éducation sexuelle, qui notamment évoquait la question de... c'est pas moi qui parle. L'anulingus chez les mineurs. Mm-hmm. Dieu nous en garde. Donc, ça, pour mettre en garde les jeunes, mm-hmm. on comprend ce principe d'éducation sexuelle, mais qui était assez explicite. Marie-Estelle Dupont a dénoncé la chose sur le plateau de CNews. Elle a été accusée par plusieurs sur les réseaux sociaux de fake news. Mais c'était pas une fake news, c'était documenté ce qu'elle disait. Mais on était devant des gens qui considéraient que citer certaines réalités, des textes, donc des documents gouvernementaux, c'était fake news, c'était propos haineux. Comme si le régime ne croit pas lui-même à ce qu'il produit, comme si citer certaines réalités, comme si citer certaines statistiques, comme si citer certaines citations, comme si citer certains faits, c'était en soi des propos haineux. Les exemples sont nombreux.
Et justement, quels autres exemples vous avez en tête?
Déplaçons-nous en Asie, allons en Allemagne.
Alors... Je me dis, pourquoi l'Asie?
Pour moi, ça commence avec le Rhin.
Pas de problème.
Alors, c'est une femme politique engagée dans un parti qui, par ailleurs, a mauvaise réputation, je prends la peine de le dire, c'est l'AFD. Mm-hmm. L'AFD, donc le parti qui, on pourrait dire, apparenté politiquement, mais avec beaucoup, beaucoup de nuances au RN en Allemagne, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas du tout la même tradition idéologique, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une dame, Marie-Thérèse Kaiser, de l'AFD, qui, en 2021, avait dénoncé sur les réseaux sociaux la surreprésentation, disait-elle, des Afghans dans certains crimes à nature sexuelle. La question n'est pas de savoir si c'est inclusif ou exclusif, bien ou mal. La question est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, devant un fait, je ne veux pas savoir si c'est bien ou mal, vrai ou faux, et ensuite on discute. Elle référait, je précise sur les réseaux sociaux, elle référait à un article qui fondait le propos. Donc, ce n'était pas une phrase lancée dans le vide. Il y avait un fait, un article pour documenter le propos. Eh bien, elle s'est retrouvée devant les tribunaux, ça s'est poursuivi, et aujourd'hui, pour avoir mentionné ce fait, à tout le moins de son point de vue, qui s'appuyait sur des sources à tout le moins de son point de vue, elle doit payer notamment 6 000 € d'amende. 6 000 € d'amende pour avoir mentionné certaines réalités qu'apparemment il ne faut pas mentionner, parce que certains faits sont considérés comme des faits haineux aujourd'hui. Rappelez-vous d'ailleurs au moment du Stade de France, lorsque l'idée de mentionner la nationalité de... Quand c'était des supporters britanniques, on pouvait mentionner leur nationalité. Mais quand c'était finalement des supporters pas britanniques, là, il fallait plus mentionner leur nationalité parce que c'était apparemment nauséabond. Je note, soit dit en passant, qu'Elon Musk, c'est pourquoi ce cas nous on en parle, parce qu'Elon Musk est devenu presque une puissance géopolitique à lui seul, s'est inquiété de ce qui s'est passé en Allemagne là-dessus, en disant globalement, mais ce qu'elle dit, on peut ne pas aimer la dame, on peut la condamner politiquement, mais les faits qu'elle présente, est-ce qu'elle a le droit de les présenter, oui ou non? Même chose en Belgique tout récemment. Alors, dans un parti qui est vraiment un groupuscule, la Voix nationale, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, où des militantes de ce groupuscule qui ne représentent pas grand-chose, je prends la peine de le dire, ont mis sur les réseaux sociaux des phrases comme « Stop au vivre ensemble, nous voulons vivre sans eux » ou « Notre peuple d'abord » et où ils comparaient Molenbeek à l'Afrique, ou Molenbeek, je pense qu'on dit, à l'Afrique, eh bien, ils ont été traînées devant les tribunaux aussi. On a porté plainte contre elles. Donc, est-ce qu'il est possible de dire cela? Est-ce qu'il est possible de dire, par exemple, stop au vivre ensemble, notre peuple d'abord? Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui, par exemple, de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'en France, si on faisait une transposition, ou est-ce qu'on risquerait alors d'être poursuivi devant les tribunaux? À Nantes, tout récemment, rappelez-vous, cette jeune militante de Némésis qui s'est présentée avec une affiche sur le droit de violeurs étrangers dehors, expulsion des violeurs étrangers. Et là, la maire de la place a dit non. Nous, je pense à la mère qui était Vigneault, si je ne me trompe pas, dit ce qui est écolo, c'est scandaleux, propos haineux. Là, la question, c'est qu'aurait-il fallu présenter comme affiche « N'expulsez pas les violeurs étrangers » Alors, ça aurait mieux passé. Donc, j'essaie de comprendre le raisonnement. Donc, on est dans une logique de censure. Donc, il suffit de coller une étiquette. pour censurer. Il suffit, et certains faits, certaines opinions, mais vraiment certains faits, c'est quand même embêtant, des citations, des statistiques, des faits, des opinions, vous les mentionnez, vous risquez la disqualification, vous risquez la pénalisation, la criminalisation de votre propos. Et je donne un petit détour, par le Canada, le pays de Justin Trudeau, où il y a le projet de loi, qui n'est pas le Québec, je le répète.
Allez-y, faites passer vos messages, Mathieu.
C'est ton message.
Vous êtes 5, chez vous.
Vive le Québec libre. Où il y a le projet de loi 63 en ce moment, qui prétend lutter contre la haine en ligne, comme on dit. Et dans ce projet de loi, qui n'est pas encore adopté, il y a une clause rétroactive pour les propos haineux que vous auriez déjà tenus sur le web, et on pourrait vous poursuivre. Donc, imaginons que la loi se passe au mois de juin. On pourrait vous poursuivre pour des propos tenus, par exemple, je sais pas, en février 2009 ou 2019. Donc, une clause de condamnation rétroactive pour les propos qui sont encore disponibles et qui sont jugés haineux par le régime aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on considère que s'ils sont là, vous les assumez encore. Donc, si vous les effacez pas, eh bien, on pourrait vous poursuivre. Donc, non seulement on vous poursuivra sur ce que vous pouvez dire aujourd'hui ou demain, mais on envisage aussi de vous poursuivre sur ce que vous avez peut-être dit hier avant que les lois pénalisant certains propos n'apparaissent. Donc, vous voyez à quel point se déploie partout en Occident un même dispositif de censure qui pousse inévitablement à l'autocensure.
Les individus dont vous venez de parler sont souvent assimilés à l'extrême droite. Est-ce que ça ne vient pas justement donner raison à ceux qui veulent encadrer très sévèrement leurs propos?
Non. Pour une raison simple, je crois, c'est-à-dire le mot extrême droite aujourd'hui est une étiquette collée aux uns et aux autres avec une seule fonction, c'est transformer celui à qui on colle cette étiquette en paria. Dès lors qu'on sait que quelqu'un est assimilé à l'extrême droite, dès lors il est légitime de le censurer, on peut même pratiquer une forme de déchéance de ses droits civiques en disant « puisque vous avez de telles idées, puisque vous êtes porteur de cette idéologie, vos droits seront moins nombreux ». On en a souvent parlé sur ce plateau. Par exemple, c'est les manifestations, c'est une manifestation contre un centre de migrants, l'installation d'un centre de migrants il y a quelques mois. Eh bien, on a dit, le préfet avait dit « je n'accepte pas cette manifestation parce que les organisateurs sont marqués à l'extrême droite ». Un colloque, rappelez-vous le colloque de l'Institut Iliade, pas cette année, mais l'année passée, qui a été censuré, on ne l'a pas permis qu'il se tienne, parce qu'il était assimilé à l'extrême droite. Donc le mot extrême droite sert en fait, et on y revient toujours, c'est l'étiquette qui permet aujourd'hui de diaboliser, de déchoir de leurs droits civiques certains citoyens qui ont le malheur de ne pas penser comme tout le monde. La définition de l'extrême droite, on ne la trouve jamais, c'est un terme répété, scandé, hurlé, mais si vous cherchez une définition, vous allez chercher longtemps. L'extrême droite, finalement, c'est ce que la gauche n'aime pas à un moment X. Vous n'aimez pas...
Ça fait beaucoup de choses, du coup.
Ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de doute là-dessus. Beaucoup de gens... c'est pour ça que j'ai souvent dit, tout le monde a été, est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite. C'est la loi de notre époque. Cela dit, ce que je note concrètement, c'est qu'on cherche à tout prix à pénaliser, à criminaliser, à disqualifier ce qu'on appelle largement la mouvance dite identitaire. Cette mouvance-là, on veut l'interdire. Cette mouvance-là, on veut non seulement l'expulser du jeu symbolique, médiatique et politique, mais on veut l'interdire juridiquement. On veut la criminaliser. De ce point de vue, qu'on soit d'accord ou non avec cette mouvance, c'est assez secondaire. Le véritable enjeu, c'est que lorsque un État décide d'interdire une idéologie, entre guillemets, il pratique un arbitraire terrible, il ose se réclamer de l'État de droit. Dans les faits, on voit à travers cela une nouvelle génération de dissidents bien malgré eux apparaître, ceux qui s'opposent à l'immigration massive.
Merci beaucoup Mathieu. On va passer maintenant aux Jeux Olympiques. Avec vous, Michel Thau, vous avez choisi justement de titrer votre édito « Vive les Jeux, vive la France ». Mais est-ce si simple? Parce que alors que la flamme olympique est en train de rentrer dans le port de Marseille avec un déploiement de moyens qu'on n'a jamais vu dans la cité phocéenne, on est à 79 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous vouliez mettre le doigt justement sur quelques symboles qui risquent d'entacher la fête si l'on n'y prend pas garde.
Absolument. La fête et aussi les valeurs de notre pays, la France, parce que Paris 2024 se passe évidemment en France et on peut peut-être se poser la question, c'est peut-être pas si simple. Alors effectivement, comme vous le disiez, la flamme débarque en Provence, à Marseille. Alors c'est pas le débarquement de Provence qui a joué un rôle déterminant dans évidemment l'issue de la guerre. Et on est le 8 mai, donc il faut avoir une pensée pour évidemment le 8 mai 45 et toutes les victimes et tous ceux qui ont sauvé la France du nazisme et le monde du nazisme. Mais non, c'est le débarquement de la flamme olympique, c'est les dieux du stade qui arrivent en France. Et c'est vrai que on peut se demander effectivement si tout en étant universel, et je tiens à le dire tout de suite, moi, je suis pour les Jeux Olympiques. Je suis content qu'ils aient lieu en France. Je pense que ça va être une fête. Je pense que ça va être une foison de médailles pour les Québécois, j'espère, mais aussi pour les Français. Mais en même temps, il y a des enjeux de symboles qui vont se poser très clairement.
Justement, le premier dont vous vouliez parler concerne la laïcité à la française. Alors, que vient faire en fait la laïcité dans ces JO?
Alors, en fait, il y a plusieurs manières d'en parler. Mais je commencerai par l'actualité la plus récente. La Fédération française de football a, dans ses statuts, article 1, un article très courageux qui interdit toute manifestation politique ou religieuse sur les terrains de football. Et vous avez l'article 50 de la charte olympique qui dit exactement la même chose, qui interdit toute manifestation politique, toute expression, notamment vestimentaire, d'ordre politique ou religieux, sur les terrains de l'olympisme. Or, il faut le dire très clairement, il faut que les Français le sachent, s'ils l'ont oublié avec les précédents Jeux olympiques, c'est qu'à Paris, nous aurons des athlètes qui feront leur compétition avec des vêtements d'ordre religieux et bien entendu d'ordre islamique pour ce qui est de délégations d'athlètes féminines qui viendront voilées et avec évidemment des vêtements à caractère religieux. Et la France, que peut faire la France ? Dans un pays qui est laïque, qui appelle à la neutralité et la discrétion dans l'espace public, dont certaines fédérations, notamment le football, est extrêmement ferme et lui valent d'ailleurs des attaques incessantes. Ça s'est encore passé la semaine dernière où, effectivement, on a accusé la France d'être un pays de racistes dégénérés, mais ça visait en fait la Fédération française de football. Eh bien, en France, on n'aura pas le choix. On sera obligé de s'incliner devant cette démonstration de sportifs qui contreviennent à notre laïcité à la française. Et pour une raison très simple, c'est que la piste d'athlétisme de Saint-Denis, la piscine olympique qui est au nord de Paris, les différents emplacements de Saint-Quentin en Yvelines où vont se passer de nombreuses compétitions, le basket à Lille et dans d'autres villes, eh bien en fait, on ne sera pas vraiment en France. C'est un petit peu comme une ambassade. À l'ambassade d'Allemagne, on est en Allemagne. Eh bien sur les pistes d'athlétisme dans la piscine olympique, on ne sera pas vraiment en France. On sera dans une sorte d'extraterritorialité qui appartient au CIO et qui nous impose ces lois. Alors, lois qu'on a acceptées, mais qui, encore une fois, contreviennent au principe de la laïcité française et à la charte même de l'olympisme, ce qui fait que beaucoup de militants, notamment de la liberté des femmes, demandent à ce que, dans le respect de la charte olympique, qui est en fait d'inspiration très française, on ne permette pas que pendant les Jeux Olympiques, il y ait des manifestations d'ordre religieux. Mais malheureusement, il faut s'y préparer. Ça ne sera pas le cas.
Un autre sujet dont vous vouliez parler, la place de la Concorde.
Alors, je voulais absolument l'évoquer parce qu'on a Marc Menant qui est ici, qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Place de la Concorde, les Jeux Olympiques vont se passer dans des lieux extraordinaires. Alors le cheval à Versailles, il va y avoir des hauts lieux du patrimoine de l'histoire de France qui vont être investis par les Jeux Olympiques. Mais il y en a un où j'aimerais vraiment dire qu'il y a une faute de goût qui a été commise par les organisateurs. Et je vais parfaitement assumer d'être vintage, vieux jeu ou tout ce que vous voulez.
Ça revient à la mode le vintage, hein, ceci dit.
Absolument. Et je pense que
vous préparez votre avenir.
C'est une valeur forte. Qu'est-ce qui va se passer Place de la Concorde ? Est-ce que tous nos concitoyens le savent ? Place de la Concorde, sur une des plus belles places du monde, un des hauts lieux de l'histoire de France, vous allez avoir du BMX freestyle, du breaking, du skateboard et du basketball 3x3. Et notamment, il va y avoir du breaking. Le breaking, c'est quoi ? C'est le breakdance, inspiré de la musique hip-hop, qui est un sport tellement pratiqué par les athlètes que même dans 4 ans, aux Jeux Olympiques de Los Angeles, le breaking a déjà été exclu. Les Américains considérant que vient faire le breakdance dans les Jeux Olympiques. À tel point d'ailleurs que même les pratiquants les plus avérés du breakdance sont contre les Jeux Olympiques eux-mêmes. Et c'est Place de la Concorde que ces sports, qui sont quand même extrêmement mineurs, qui correspondent, il faut le dire très clairement, à des choix de marketing wokiste pour séduire des jeunes populations, vont se retrouver sur la place, une des places les plus emblématiques de l'histoire de France. Et donc, je pense effectivement que c'est une faute de goût et que c'est une manière, quelque part, de mépriser, pour ceux qui en ont pris la décision, ce qu'est la France et ce que veut incarner la France en accueillant les Jeux Olympiques.
On va s'interrompre pour la pause, évidemment. Michel Taub, vous terminerez votre édito. Vous avez encore d'autres petits coups de gueule, entre guillemets, à passer. Puis on vous parlera aussi de l'OTAN qui se lance dans l'écriture inclusive. Vous allez voir à quel point c'est compliqué d'utiliser ce nouveau manuel annuel de l'OTAN. Restez bien avec nous pour la deuxième partie de Face à l'Info. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Face à l'Info. On était en train de parler avec vous, Michel Taube, justement des Jeux Olympiques et d'un certain nombre d'impensés peut-être. Et vous vouliez maintenant parler des Jeux Paralympiques, justement.
Oui, qui auront lieu du 28 août au 8 septembre pour insister sur deux points. D'abord, encore une fois, je l'ai dit dès le début, je suis très content que les Jeux aient lieu en France. Mais s'il y aurait eu un motif de ne pas candidater ou de les refuser, c'est bien le statut des handicapés en France. Et je pense qu'il y a des millions de handicapés en France et d'aidants des handicapés qui vont l'avoir un peu verte pendant les Jeux paralympiques parce qu'effectivement, ils vont avoir droit à un spectacle qui est certes extraordinaire et les athlètes paralympiques, souhaitons-leur plein de succès et pour eux, ce sera extraordinaire. Mais en regard de la situation des handicapés et notamment dans les services publics français, les moyens de locomotion et de transport pour les handicapés, il faut vraiment regretter que depuis l'attribution des Jeux en 2017, pas grand-chose a été fait pour améliorer leur situation. Alors, on va certainement avoir des grands discours, surtout à l'ouverture des Jeux paralympiques, sur la France patrie des handicapés, et on va nous sortir certainement des arguments les plus beaux. Non, la réalité, c'est que là, il y a un déficit, un retard extrêmement important, et que pour, encore une fois, beaucoup de nos concitoyens, le fossé entre ce qu'ils verront à la télévision et la réalité qu'ils vivent sera extrêmement important. Et puis, il y a un deuxième aspect qui n'a rien à voir, et qui là concerne tous les Français sur lesquels il faut insister, c'est que tout le monde a peur des problèmes de circulation, de venue de millions de touristes. Beaucoup de Franciliens annoncent qu'ils quittent Paris pour aller à la campagne pendant les Jeux Olympiques. Mais le problème, selon moi, ça ne va pas être les Jeux Olympiques qui ont lieu en plein milieu de l'été. Ça va être les Jeux Paralympiques parce qu'ils ont lieu, je le répète, du 29 août au 8 septembre. Mais qu'est-ce qui se passe le 2-3 septembre? C'est la rentrée scolaire. C'est les retours de tous les Français qui doivent travailler. Et donc, avec toutes les questions de sécurité, tous les quartiers qui seront interdits d'accès, avec toutes les voies qui ont été coupées, le périphérique dont toute une voie sera interdite à la circulation et risque d'ailleurs de l'être au-delà des Jeux, ça va être, excusez-moi, je n'aime pas employer des gros mots, mais ça va être le bordel. Ça va être très très compliqué à gérer, à tel point que il se murmure l'idée que peut-être la rentrée scolaire pourrait être repoussée au 9 septembre, c'est-à-dire le lendemain, la fin des Jeux paralympiques, parce qu'encore une fois, le vrai problème de circulation, de transport, d'accessibilité de Paris, ce ne sera pas pendant les Jeux olympiques, mais pendant les Jeux paralympiques.
Et justement, alors, on sent que vous voulez être optimiste et que vous êtes pour les Jeux, mais est-ce que vous avez encore quelques petit coup de gueule, je sens que oui, Michel.
Ah, bah, évidemment, les nombreux préavis de grève qui ont déjà été déposés, en se disant bien que nos chers politiques ont été dans une duplicité totale, puisque l'année dernière, une loi Paris 2024 a été votée qui ouvre plein d'exemptions aux règles de droit traditionnel, sauf une, les politiques, nos chers parlementaires, nos chers politiques, l'exécutif, n'ont pas osé, évidemment, suspendre les droits de grève pendant la durée des Jeux Olympiques. Il faut le regretter parce que c'eût été parfaitement compatible avec la Constitution, qui stipule très clairement dans son préambule que le droit de grève est constitutionnel, mais dans le cadre fixé par la loi. Donc une loi aurait pu suspendre pendant quelques semaines l'application du droit de grève pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les Jeux olympiques. Il y a évidemment l'utopie de la trêve olympique, dont on commence déjà à nous parler. Moi, j'aimerais terminer sur aussi des problèmes évidemment de sécurité. Ça, tout le monde est très inquiet par cela, même si les moyens et la mobilisation générale est au rendez-vous, évidemment, on peut l'espérer. Je pense notamment aux athlètes israéliens qui vont certainement arriver en France avec une certaine peur au ventre parce qu'il y a malheureusement un retour non seulement de l'antisionisme, mais également de l'antisémitisme en France et ailleurs. Voilà plusieurs points, mais je le répète, vive les Jeux Olympiques, vive la France, mais ne soyons pas dupes. Et comme disait Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, les faits, toujours les faits.
Heureusement que vous êtes pour, cher Michel, parce que si vous aviez été contre, on n'imagine pas.
Mais je peux vous expliquer pourquoi je suis pour.
Ça sera l'objet d'un autre édito. On va changer de sujet, on va parler avec vous. Marc, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de Jeanne d'Arc.
Eh oui, le 8 mai, c'est une autre date historique. C'est encore une façon de pouvoir pénétrer dans ce qui est le véritable héritage nous venant des ancêtres et ce personnage devenu mythique. On est en 1429. Charles VII n'est que le dauphin contesté par sa mère, Isabeau de Bavière. Il y a eu le fameux traité de Troyes où elle faisait en sorte que le roi d'Angleterre soit l'héritier de la couronne à la mort de celui qu'on appelait Charles VI le Fol, puisqu'il avait perdu la tête. Ce qui fait que Charles VII est recroquevillé entre Chinon et Bourges et qu'il n'a pas véritablement de pouvoir comparé, par exemple, au duc de Bourgogne. Et on est dans un petit village, à Don Rémy. Il est partagé en deux, ce village. Vous avez la partie française et celle qui est Lorraine. Et entre les deux, une césure. Et puis aussi, une particularité, une petite île à l'intérieur de ce village. Et cette île, elle est essentielle, car la présence anglaise, elle dure depuis des décennies maintenant. Et on est constamment sous la férule, ou la menace de la férule, de ces envahisseurs. Et puis il y a ceux qui sont en rupture de banc, entre deux batailles, les voyageurs qui ont gardé leurs armes et qui attaquent les villages en pilleurs. Et donc, on tremble. Dans ces instants-là, chacun, possesseur d'animaux, se retrouve sur cette petite île et là, on garde le troupeau. D'où la fameuse légende de la bergère. Mais quand on a la réalité, eh bien, ce n'est pas du tout la petite bergère. Son père est un possesseur. Il a quelques 20 hectares de terrain. Et cet homme-là pratique donc l'agriculture à quelques animaux. On le voit aussi délibéré dans le lit de justice avec le seigneur de Vaucouleurs. C'est la grande ville qui est à quelques camps encablures, monsieur le sieur de Baudricourt. Et elle est marquée par l'éducation de sa maman, Romée. Ça veut dire qu'elle a réalisé un pèlerinage à Rome. Les éléments que je viens de vous distiller montrent que ce n'est pas du tout l'enfant de la misère, ce n'est pas l'enfant du peuple. C'est une jeune fille qui est un peu nantie. D'ailleurs, elle a deux petits anneaux qui montrent que cette famille possède de quoi rutiler par rapport à l'environnement. Elle a aussi une merveilleuse petite robe rouge qu'elle met dans les grandes occasions. Et enfin, incroyable, à une époque où on dort tous dans le même lit, on est au Moyen-Âge, eh bien, elle dispose de sa propre chambre. Elle a ses frères qui font attention à elle. Et de temps en temps, eh bien, emportée par la foi de sa mère, elle se laisse aller à s'agenouiller en pleine rue quand les cloches tintent pour l'heure de la messe. Cette jeune fille est en quelque sorte possédée par sa foi. Elle vit avec le ciel, même quand elle est avec ses petites amies et qu'elle se rend près de l'arbre aux fées. C'est là où on dit qu'il est bon de se présenter au printemps pour que les récoltes soient prospères. Alors que se passe-t-il un jour, à côté de l'église, il y a le cimetière et il y a les voix qui lui viennent. Et puis quelques visions et on l'appelle à la mission. Cette mission, comment une gamine comme ça, n'oubliez pas, vous êtes au Moyen-Âge, la jeune femme, théoriquement, elle est dans la soumission à sa famille, elle est déjà d'ailleurs fiancée, on lui a désigné celui qui partagera son existence, celui avec lequel elle aura des enfants, et soudain elle se met en rupture en disant « ma mission, c'est de faire en sorte que les Anglais soient boutés de France et que, eh bien, je porte le message au dauphin ». Quelle est cette folie? Alors elle n'ose pas forcément l'avouer à ses parents. Il faut se rendre auprès du sieur de Baudricourt. Heureusement, elle a un cousin dont la femme est enceinte. Et la parturiente est la bonne excuse. Je l'assisterai pour que le petit bébé puisse naître dans de bonnes conditions. Elle se retrouve chez ce cousin. Et grâce à lui, la voilà devant le sieur de Baudricourt. Elle lui dit, j'ai les voix qui m'ont dit qu'il me fallait me rendre auprès du dauphin pour prendre les décisions et bouter les Anglais. Il la gifle en lui disant « retourne ». Il connaît en plus son père, puisque de temps en temps, ils partagent le lit de justice ensemble. Et puis, elle insiste grâce à son cousin. Et il se trouve que le duc de Lorraine a une petite maladie. Il se sent près du trépas. Comme on lui a annoncé qu'il y avait une visionnaire, eh bien, il l'a fait mander. Guéris-moi. Mais dit-elle, je n'ai qu'une mission. C'est celle de bouter l'anglais. Et quand Baudricourt apprend la nouvelle, soudain elle est réhabilitée. Ce n'est donc pas une illuminée. Et la légende veut qu'il y avait une sorte de rumeur qui courait le royaume. Une jeune fille venant de Lorraine libérerait la France. Et la voilà avec une escorte. Mais le plus étonnant, c'est que cette jeune fille, qui n'est jamais montée à cheval, puisse se retrouver sur un fier d'estrier avec des gendarmes. Et pour autant, eh bien, elle tient sa position, la voilà à Blois, et ensuite elle se fera connaître pour, à Chinon, être reçue par le dauphin. Il y a une commission. Mais qui êtes-vous, jeune fille? Vous n'êtes qu'une folle, une illuminée. Elle donne les éléments, elle est suffisamment persuasive pour être reçue là où le dauphin tient sa cour. Une cour où il est sans doute le plus dépenaillé déjà physiquement. C'est un garçon qui a les jambes arquées, il a un nez qui tombe, il est toujours mal vêtu car il n'a pas le moindre sou. On dit même qu'il n'a pas pu payer la réparation de ses souliers dernièrement et que celui qui était chargé de ce travail est reparti avec les chaussures en question. Et les uns et les autres, pour la narguer, disent « mais c'est, je suis le roi ». Non, non, et elle dit, le dauphin, il n'est pas roi, il n'a pas été sacré. Et elle finit par se retrouver au contact de Charles VII qui est apparu, et elle se jette sur lui, elle dit, mon dauphin, il dit, non, non, c'est pas moi le dauphin, vous êtes le dauphin. Il se retire, et là, il y a un message qui est resté secret, personne ne le connaîtra jamais, et il semble que ce message était suffisamment convaincant pour que Charles VII lui accorde, eh bien, la protection et lui demande d'accompagner un convoi qui doit se rendre à Orléans, qui a été pris par les Anglais depuis le mois d'octobre. Et on est fin avril. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 3 jours, on réalise une armure, qu'elle puisse être à côté de ceux qui l'accompagnent. Vous imaginez une armure? Mais on n'a jamais fait fabriquer une armure pour une femme. C'est l'un des autres mystères. Il chemine, se retrouve à Orléans. Alors, il y a 475 cavaliers qui sont là. Il y a les chariots. Et quand il se présente à Orléans, encerclé par les Anglais, la rumeur court que la jeune fille de Lorraine est présente. Et là, elle est accueillie dans la ville comme étant effectivement celle qui va libérer ceux qui commencent à connaître la famine, grâce à elle, on pourra se retrouver, eh bien, enfin, à jouir de la liberté. Alors, on l'accueille dans les hurrahs. Elle est avec ses... Alors, elle a un petit pennon. Un pennon, c'est un petit drapeau sur lequel il y a la Vierge Marie. Et à côté, elle a un drapeau sur lequel est écrit Jésus Maria. Et dans l'enflammement, si je puis dire, de la foule, on apporte des torches pour l'illuminer. Il y a le feu et elle coupe le panon, avec simplement l'épée. Tout ça est étonnant, car théoriquement, elle n'a aucune pratique, ni des armes, ni du cheval et autres. Et on l'écoutera, elle est accueillie avec des mets les plus fins, mais elle les boude. Mathieu aurait été là, il aurait été, bah oui, dépité. Et elle demande simplement un verre de vin avec beaucoup d'eau. Et elle trempe 2-3 biscuits et c'est comme ça qu'elle s'endort. Je vais passer les jours, on est le 29 avril. Il y aura dès le 5 mai, alors que l'entourage à la fois l'a salué, il est vrai qu'elle s'est imposée. Vous imaginez une jeune femme comme ça qui impose son autorité à des gaillards. Pour la troupe, ce sont des garçons qui n'ont pas la moindre éducation, qu'il faut mener avec virilité, eh bien elle s'impose simplement sur son charisme. C'est invraisemblable, et pourtant le miracle est là. Il y a l'Aïr, il y a celui qui deviendra Gilles de Rais, le terrible assassin d'enfants, mais qui là se montre dans une dignité aristocratique. Mais au moment de prendre des conseils d'encerclement, on ne l'écoute pas, on la boude. Et quand elle apprend qu'il y a les premières escarmouches qui sont menées du côté du fort Saint-Augustin, elle se lève, demande qu'on lui sorte son cheval, et elle se précipite, elle est blessée au pied. Et dans la nuit, de nouveau, elle a une illumination. Les voix ne la quittent jamais. Et on lui dit, tu seras blessée. Et elle le dit, je serai blessée. Et le lendemain, pour autant, elle se précipite sur les petites échelles que l'on place face au fort qu'il faut conquérir. Et là, ce qui est invraisemblable, c'est qu'elle est victime d'une lance qui la transperce au sein, telle qu'elle avait eu la vision. N'oubliez pas que quand elle monte comme ça, elle est celle qui instille l'audace, qui instille la fougue, mais elle n'a pas d'armes. Elle n'a que son petit pennon et son drapeau. Et c'est comme ça qu'elle mobilise les hommes qui sont autour d'elle. Elle est soignée, on lui met un morceau de lard autour de la plaie, de l'huile, et elle repart reconquérir, je dirais, l'enthousiasme de ceux qui l'accompagnent. Les Anglais finissent par être écœurés de ce qui se passe. Et le lendemain, le 8 mai, donc jour anniversaire aujourd'hui, lorsqu'elle se lève, qu'elle apparaît, qu'elle a quitté la chambre que Maître Boucher lui avait offerte depuis quelques jours, elle s'aperçoit en joie avec ceux qui l'entourent que les Anglais sont en train de partir. Orléans est libérée. C'est la première étape, la première ville conquise. Il y en aura d'autres. Et c'est la légende qui vient de naître, mais qui ne sera reconnue que bien plus tard. Car même Charles VII, qu'elle conduira au sacre à Reims, se détournera d'elle, car il la trouve beaucoup trop belliqueuse. Et lui, il veut traiter avec les ennemis. Le reste, vous le connaissez, ça se termine sur le bûcher.
Merci beaucoup, Marc. On va parler d'un tout autre sujet avec vous, Vincent, alors, on apprend qu'à l'OTAN, désormais, l'écriture inclusive s'impose.
Et oui, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a maintenant son manuel sur le langage inclusif. Alors, inutile de vous dire que Vladimir Poutine n'a qu'à bien se tenir, d'ailleurs. il prend peur. Alors, ce manuel émane, c'est pas une blague. Hein.
Ah non,
ce manuel émane du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général pour les femmes, la paix et la sécurité. Alors autant vous dire que l'écriture inclusive devient à l'OTAN l'écriture exclusive. Ce qui est important, si vous voulez, c'est toujours de pointer le niveau de niaiserie d'une époque ou son épaisseur de vulgarité, si vous voulez, comme disait Baudelaire. Alors écoutons ce que nous dit le manuel. Il importe de faire la distinction entre le genre grammatical et le genre en tant que construction sociale. Ce dernier désigne les rôles et les caractéristiques sociales associées à la masculinité et à la féminité. Les rôles de genre déterminent les comportements attendus ou permis dans certains contextes. Ils peuvent varier selon le contexte et évoluer dans le temps. Il est important de noter, ça vous allez voir, je vais y revenir, que la notion de genre ne renvoie pas uniquement aux femmes et qu'elle est distincte du sexe biologique. Au contraire de l'anglais, le français est une langue fortement marquée sur le plan du genre, que ce soit au niveau des articles, la, le, les, des pronoms, laquelle, lequel, des adjectifs possessifs ou démonstratifs sont ça, celui, celle, ou bien entendu des substantifs, directeur, directrice. Cependant, le masculin générique est encore, selon le manuel, trop systématiquement employé et peut, dans certains contextes, contribuer à véhiculer des stéréotypes de genre. Il est ainsi question de faire progresser l'égalité, on croit rêver, l'égalité des genres au sein de l'organisation de l'Atlantique Nord, une entreprise d'envergure. Chacune et chacun, vous voyez, je m'y mets, dans l'OTAN, doit avoir un sentiment d'inclusion. Je cite, ce n'est pas le cas a priori. Il s'agit donc d'agir sur les préjugés inconscients véhiculés par le langage. Je recite, à ce stade, il ne m'apparaît pas inutile d'écouter Roland Barthes et sa leçon inaugurale d'entrée au Collège de France, durant laquelle il déclarait que la langue est fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, mais précisément d'obliger à dire. On y est. Le combat contre les discriminations dont la langue, l'orthographe serait dépositaire impliquerait-il, engendrerait-il, susciterait-il, et c'est un comble, un discours de pouvoir. Selon l'auteur du degré zéro de l'écriture, il faut entendre par cette terminologie tout discours qui engendre la faute et, partant, la culpabilité de celui qui le reçoit. Claire Hutchinson, la représentante spéciale du secrétaire général pour les femmes, la paix et la sécurité aux Nations Unies, à l'OTAN, propose d'utiliser désormais une langue qui, dit-elle, reflète notre vision du monde et contribue à façonner le monde de demain. Rien que cela, sous couvert d'en finir avec les dominations, il faut imaginer une langue donc plus juste, plus égalitaire, les nouvelles apories de l'orthographe vont y pourvoir. L'idéal puriste est à l'œuvre et avec lui, évidemment, on s'en doute, rien moins que l'idéologie de l'empire du bien. L'idéologie, toujours, si l'on en croit Barthes, c'est l'idée en tant qu'elle domine. Nous y sommes, alors là, en plein dans la cible.
Et donc, concrètement, dans le détail, en quoi consiste ce fameux manuel sur le langage inclusif?
Ah, vous allez voir, c'est savoureux. D'abord, il nous est expliqué que l'utilisation ensemble proactive et systématique du langage inclusif, à l'oral comme à l'écrit, est indispensable quant à ne pas discriminer les genres ou les sexes. Oui, parce que ce n'est pas la même chose, comme il vous a été dit, un glossaire est explicite sur ce point que vous lirez à la fin du manuel. C'est pourquoi moi je vous dis que le transhumanisme est en marche forcée. Dis-moi quel est ton genre, je ne te dirai pas quel est ton sexe, mais l'inverse est vrai aussi. Dis-moi quel est ton sexe et je me garderai bien de te dire quel est ton genre. Tu peux d'ailleurs en avoir plusieurs à ta guise. Vous savez, jadis, on se questionnait sur le sexe des anges. Aujourd'hui, à l'OTAN, on se questionne sur le sexe des genres. La réponse, sans doute, est dans la question. Voilà pourquoi je me suis permis de lancer que le transhumanisme avait de beaux jours devant lui. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos moutonnes, enfin à nos brebis. Le manuel de l'OTAN nous propose l'utilisation, j'insiste, proactive et systématique du langage inclusif à l'écrit, mais encore à l'oral. Alors là, c'est une performance pour l'oral. Je vous ai fait un petit... tout le monde connaît le loup et l'agneau de La Fontaine. La raison du plus fort, quatre vers. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oh, c'est à l'oral. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Passage à l'inclusif, vous allez voir comme c'est simple, comme c'est beau, et à l'oral. La raison du de la plus fort point E est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. 1 point E, agneau point L, E, 2 L, E, se désaltérer dans le courant d'une onde pure, ça c'est de l'oral. Vous avez remarqué comme c'est commode, preuve que la prescription de l'écriture inclusive, c'est l'expression de la haine de la poésie et partant de la littérature, ou plutôt sa négation, cela vise à la rendre inopérante. Mais soyons très pratiques, encore plus pratiques. Il est capital de rendre la langue plus neutre, c'est l'obsession. D'abord, nous conseille-t-on, il y a, c'est délicieux, il y a des mots épicènes qui sont idéaux car neutres par nature. Collègues, stagiaires, membres, compatriotes, spécialistes. Cela, vous avez le droit de les utiliser, dit le manuel de l'OTAN. Il y a encore les collectifs génériques qui, faisant fi du singulier ou du pluriel, sont à prescrire. Ainsi, vous remplacerez le directeur ou la directrice par la direction, client ou cliente par la clientèle, patient ou patiente par la patientèle, oui, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de malades. À toute force, vous devrez de neutraliser le genre plutôt que d'écrire « c'est un problème qui touche tout ». Entre parenthèses, TE, plus loin, S, ou les habitantes, E.S, vous préférez, c'est un problème qui touche toute la population. Surtout, ne parlez jamais à l'oral comme à l'écrit de présidente ou de président, mais de présidence. Vous éviterez toujours des tournures désignant les personnes. Alors vous ne direz plus, les répondantes et les répondants ont indiqué que l'outil était facile à utiliser. Vous direz, les résultats du sondage ont montré que l'outil était facile à utiliser. Vous ne manquerez pas non plus d'ajouter... Non mais tout ça est dans le manuel, c'est pas une blague. Vous ne manquerez pas non plus d'ajouter des mots à effet neutralisant. Vous ne parlez plus de candidats, mais de personnes qui postulent. Grâce à votre nouveau manuel, vous apprendrez à éviter le chemin de la voix passive qui suppose l'usage d'articles, d'adjectifs et de participes passés qui marquent le genre. Vous suivrez donc directement la voix active. Alors vous n'écrivez plus « vous êtes prié » E-E-S ou E-E, mais « nous vous prions ». Et d'une certaine manière, la messe est dite. Dans certains cas, mais dans certains cas seulement, vous aurez le droit de rendre le genre visible, mais oui, à la condition sine qua non d'utiliser le doublé complet. Exemple, celles et ceux, toutes et tous, chacune et chacun, enfin, à l'envie. Vous pourrez encore faire bon usage du doublé abrégé pour écrire correctement « candidat », parenthèse ou point « e ». La parenthèse ou la barre oblique, le slash, deviendra vite votre nouvel allié, l'instar du point médian. Le, la, secrétaire, un point E, président, point E. Difficile à rendre à l'oral tout de même. Voilà que l'affaire se corse pour les titres et fonctions ou encore les grades, parce que c'est le cœur du manuel. La formation du féminin par l'ajout du mot femme n'est pas recommandée. Vous ne direz pas femme médecin, mais la médecin. De même, retenez bien, vous direz la, nous sommes à l'armée, hein, vous direz la caporal, la sergent-chef, la commandant. Attention, la colonel ne sera plus la femme du colonel, comme dans la série des gendarmes. Hein. Cette dernière demeurera madame la colonel, attention, E2LE, s'il vous plaît. Et pour les titres de civilité, il conviendra de ne plus faire de distinction entre mademoiselle et madame, qui font référence au statut marital d'une femme. Vous direz madame, sauf si mademoiselle vous est expressément demandée.
Et alors, qu'en est-il des personnes transgenres ?
Ah, excellente question, c'est là que je voulais en venir.
Comment
doit-on encore désigner les personnes transgenres ? Alors, je vous cite le manuel in extenso. Il est important de veiller à utiliser le titre de civilité, le pronom correspondant à son identité de genre. Je peux vous répéter la phrase 3 fois, c'est absolument incompréhensible.
Oui.
Enfin, il est de première urgence de casser les stéréotypes. C'est l'axe du manuel. Les hommes, terminés. Ce sont les êtres humains. Et les hommes politiques, terminés aussi, c'est la classe politique. Mais alors, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les droits de l'homme ? Eh bien, c'est fini aussi. Ce sont les droits de l'humain. Voilà, tout devient clair. Vous savez donc maintenant neutraliser le genre, Élodie, le rendre flexible avec les doublés. Vous saurez utiliser les mots épicènes et les collectifs génériques. Postulez à l'OTAN, un monde nouveau va s'offrir à vous. Grâce au point médian, votre identité de genre, vos identités de genre seront respectées et E.S. Enfin, voici venu le temps de l'égalité des sexes, en non mieux, c'est Byzance, de l'égalité des genres.
Merci beaucoup, je veux dire merci collègue, parce que comme j'ai pas très bien compris comment vous remercier sans vexer, disons merci collègue, je ne veux vexer personne. Pour terminer, on va parler de Marseille avec vous Mathieu Boccoté, puisque Benoît Payan, le maire de la ville, a dit que sa ville, je cite, représente l'avenir de la France, il semble lui-même s'en réjouir. D'autres qui voient les choses de la même manière ont plutôt tendance à s'en désoler. Alors, selon vous, de quoi Marseille est devenue le symbole lorsqu'on parle justement de l'avenir de la France ?
Alors, c'est intéressant de voir comment certaines villes deviennent effectivement des symboles identitaires de référence, positivement ou de manière positive ou négative. Et dans le cas de Marseille, c'est vraiment, ça devient, c'est au cœur du débat public aujourd'hui. Donc on nous dit finalement, Marseille, ça représente l'avenir de la France. Pourquoi ? C'est ce que nous dit d'ailleurs le maire, en la présentant comme une cité-État dont la France a besoin et qui a besoin de la France. Elle est l'avenir du pays, il faut être capable de le montrer. Alors il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, parce que quiconque, le nombre de plans Marseille qu'on a fait, le nombre de déplacements du président de la République à Marseille, et vous noterez que chaque fois que le président de la République va à Marseille, c'est toujours présenté comme un voyage international.
Oui.
Ce qui est peut-être le cas, ce qui est le problème. Alors il y a un déploiement diplomatique, il faut un plan Marshall pour Marseille, un deuxième et un troisième. Donc comment une ville qui a besoin mais de temps et de temps d'investissement, de fonds, d'amour et tout ce qu'on voudra, comment pourrait-elle être l'avenir de la France ? De manière positive, j'entends. Il se peut que si on se fie à l'actualité minimalement, et même dans les médias qui ont comme spécialité de falsifier l'actualité et de l'occulter et de la dissimuler, je ne parle pas ici du service public, eh bien, on va avoir les phénomènes remontent à la surface. Trafic de drogue, au point même où certains présentent Marseille quelquefois, certains quartiers, à tout le moins les quartiers nord, sur le mode de petit narco-État. L'islamisation, ce n'est pas un détail, la guerre des gangs et le fait que les populations elles-mêmes vivent sous l'empire de ces gangs qui se substituent à l'État, en fait, qui ont déclassé l'État en plusieurs endroits. Donc, de quelle manière peut-on dire que c'est la ville de référence ? Il y a un côté soviétique là-dedans, évidemment. C'est plus c'est faux, plus il faut répéter que c'est vrai. Plus une idéologie se décompose, plus il faut répéter qu'elle va très, très bien. Et de ce point de vue, il se peut que plus Marseille se décompose, plus, parce qu'on ne veut pas avouer que l'utopie diversitaire du vivre ensemble se décompose, plus on dit que ça va bien. Est-ce que, par ailleurs, Marseille la multiculturelle, Marseille la cosmopolite, Marseille la ville post-identitaire, post-française, diraient certains méchamment, est-ce que, par ailleurs, ça correspond, cette vision-là, plus largement au discours dans l'espace public ? Bien, c'est le cas, notamment, sur un autre registre, je prends la peine de le dire, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Chemseddine Hafiz, qui est né à Alger, et qui a témoigné de son amour de la France tout récemment. Mais qu'entend-on par amour de la France ? C'est la France version Marseille ou une autre ? Et il donne sa définition de l'amour de la France, c'est important. Il nous dit « Je m'identifie profondément à la France ». C'est formidable, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il entend par France ensuite ? Dans ce creuset de culture et de croyances, la France incarne bien plus qu'un simple territoire. On pourrait s'en réjouir. Elle est le théâtre de multiples identités qui se croisent, s'entremêlent et s'enrichissent mutuellement. C'est une nation où la richesse de sa diversité culturelle et religieuse constitue le fondement même de son essence. Donc le fondement de l'identité de la France, c'est sa diversité culturelle et religieuse. Donc on comprend que ce n'est plus, par exemple, le catholicisme, ce n'est plus l'histoire des rois de France, ce n'est plus la République. Le fondement, c'est la diversité. C'est beau comme dit Justin Trudeau.
Qui d'ailleurs... Deux fois.
Ah mais j'y peux rien, moi, c'est pas demandé si c'est le prophète de notre temps. Justin Trudeau, j'entends. Et que nous dit le recteur de la mosquée de Paris? Il nous dit... Il plaide pour le droit à la double, évidemment, le droit à la double nationalité qui offre la possibilité d'affirmer sa fierté, la fierté de ses origines, enrichissant ainsi le tissu social d'une pluralité assumée, une chance et une responsabilité que nous mesurons à leurs propres valeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la France est un territoire, et nous dit c'est plus qu'un territoire. En effet, c'est le territoire où une identité en expulse une autre, où l'identité diversitaire, où l'identité... Et je précise que chacun négocie sa condition d'entrer dans la collectivité. Chaque groupe, dit donc les musulmans, mais on se devine aussi les différents groupes, les Birmans peut-être, les Sri Lankais, les Québécois de France, pourquoi pas les Norvégiens, négocient chacun à leur manière leur entrée dans la collectivité nationale, qui n'est rien d'autre, rappelons-le, que cette diversité culturelle et religieuse, qui est son fondement. Mais de ce point de vue, on peut croire que l'identité française a été orwellisée. La France est d'autant plus belle qu'elle n'est plus ce qu'on appelait traditionnellement la France. Parce que si la France n'est rien d'autre, je le redis, c'est fascinant, que le théâtre de multiples identités qui se croisent, hein, une nation où la richesse de sa diversité culturelle et religieuse constitue le fondement même de son essence, que fait-on de tous ces Français, il y en a quand même quelques millions, je devine, qui se définissent sous le signe de la continuité historique, de la continuité identitaire, et qui se prenaient pour le peuple historique de France, on devine que désormais ce sont des Français de trop.
Et justement, dans ces villes qui se transforment ou qui disent représenter l'avenir, est-ce que les représentants de la France d'hier dont vous parlez sont encore les bienvenus?
Ah, très bonne question. Et la réponse, vous le devinez, c'est non.
J'aurais deviné, en effet.
Ah oui, mais j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Hein. Je me contente de décrire ce que je vois. La preuve par Marion Maréchal, qui a voulu, dans le cadre de Marc nous en parlait, des célébrations Jeanne d'Arc, donc voulu se rendre à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Bon. Ce qui est plutôt normal pour quelqu'un qui est son courant de pensée, qui, d'ailleurs, tout récemment a voulu fêter la reprise de flambeau de la tradition du défilé de Jeanne d'Arc. Bon, on comprend. Eh bien, le maire lui a répondu, le maire LR, soit dit en passant, donc pour parti complexe, j'en conviens. C'est à la fois le parti de remarquables éléments comme François-Xavier Bellamy et d'autres éléments. Par exemple, Serge Grouard, le maire LR, a expliqué qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas la bienvenue parce qu'elle aurait instrumentalisé les fêtes de Jeanne d'Arc dans une perspective politique, une perspective idéologique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de nous dire que certains Français ne sont plus les bienvenus dans certaines parties de la France. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils représentent une vieille France qui doit dégager. Donc, est-elle la bienvenue dans cette ville? On dit « vous n'êtes pas la bienvenue ». Ce à quoi Marion Maréchal a répondu « mais je suis la bienvenue, je ne demande pas votre permission, je vais où je veux ». Mais ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, et c'est intéressant, c'est que dans des villes de plus en plus, il y a des... parce que les villes se présentent comme le laboratoire du multiculturalisme aujourd'hui, parce que leur démographie est tout autre, parce que leur culture se transforme en accéléré, parce qu'elles tendent à se dénationaliser. On le voit que tant de villes qui sont tombées, conquises par les écolos, et qui basculent souvent dans l'islamo-gauchisme, ces villes considèrent qu'elles doivent s'extirper du territoire national pour se refonder dans l'ordre diversitaire. Et de ce point de vue, Marion Maréchal était présentée comme étant de trop. De la même manière, je précise, on en a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines, à Bruxelles, le Rassemblement des nationaux conservateurs, mais qui rassemblait quand même une bonne partie de la classe politique européenne, le bourgmestre, le maire de la place, qui, selon plusieurs, est un nationaliste turc de citoyenneté belge, selon plusieurs, je ne dis pas que c'est le cas, a décidé d'interdire le meeting des nationaux conservateurs parce que ce discours est intolérable ici. Nous n'acceptons pas un tel discours chez nous. Tout ça au nom de l'État de droit et de la démocratie libérale. Ou encore, lorsque dans une ville, par exemple Paris, on l'évoquait plus tôt, il y a une forme de campagne qui est menée pour interdire la promotion d'un livre Transmania parce qu'on considère que c'est contraire aux valeurs de la ville. Ce en quoi, souvent, les maires qui se prétendent des porteurs de la France nouvelle, Marseille, mais aussi ailleurs, se comportent aussi quelquefois comme des petits rois ou des barons qui décident finalement et refont le droit à la nationalité en excluant ceux qui ne pensent pas correctement.
Et justement, est-ce que ce conflit entre des Frances qui ne reconnaissent plus un destin commun ne risque pas de créer des fractures irréconciliables finalement ?
Oui, mais évidemment, je dirais, à un moment donné, tout est démographie. Moi, je le répète parce que j'ai l'impression, en fait, c'est insupportable d'avoir répété que 2 plus 2 égale 4 devant des gens qui ne nous croient pas. Eh bien, la démographie fait l'histoire. La démographie, c'est les peuples, c'est les civilisations. Elles font l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des parties du territoire qui ne souhaitent pas être l'avenir de la France, manifestement. Hein, vous leur dites, on a pour vous un beau centre de migrants. C'est formidable. Quelle bonne nouvelle. Alors, ça va vous perdre. Vous allez être dans l'avenir de la France. Et là, le territoire dit, non, merci, franchement, je préfère être la France d'hier dans ce cas. Et c'est le cas notamment d'Alexandre April, qui est le maire de Salbris, et on lui a proposé d'installer chez lui un centre de migrants. Et il a dit, non merci, franchement. Peut-être parce qu'il se dit que la diversité est une richesse, certes, mais justement, il y a des gens trop riches. Donc, on ne va quand même pas s'enrichir davantage. Il faut partager la richesse. Donc, qu'a-t-il proposé? Il a proposé à une ville plutôt voisine de Lamotte, qui est une ville macroniste, de récupérer ce centre de migrants. Autrement dit, on est dans une logique concrètement de communautarisation, redécoupage territorial du pays. Donc certaines parties du territoire disent un instant, je préfère être dans la France d'hier, franchement, si vous me permettez. Et donc, nous sommes la France de demain, s'il vous plaît. Et on connaît la politique de répartition des migrants engagés avec les Olympiques. Et là, on se dit que c'est une volonté de diversifier le territoire de la France pour que l'ensemble de la France soit la France de demain, version Marseille. Mais il se peut que plutôt, parce que vous avez pris la formule « deux France », il se peut qu'on soit moins devant deux France que devant deux territoires qui sont administrativement français, mais que le mot français au sens historique et culturel ne s'applique qu'à une partie de ces territoires et pas à l'ensemble, ce qui ne veut pas dire que la France historique ne continuera pas de subventionner la nouvelle France qui vient avec des transferts de fonds publics. Ça, on appelle ça la redistribution, et ça, c'est très bien. C'est le socialisme, c'est généreux.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de Face à l'Info. Tout de suite, vous retrouvez Pascal Praud pour l'heure des pros, et moi, je vous retrouve demain pour Face à l'Info.